Nous arrivons à 2 Corinthiens chapitre 8. Vous aurez remarqué que quelques textes sont pris de la deuxième épître aux Corinthiens, mais chaque fois c'est tout un sujet qui est développé et on prend quelques versets qui résument la pensée de l'apôtre Paul sur ce sujet de son ministère, le prix d'un ministère efficace. Et donc, qu'est-ce qu'il faut pour que ce service soit efficace? Nous lisons d'ici 2 Corinthiens chapitre 8, nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte dont nous avons la charge, car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Alors, de quoi parle-t-il? Qu'est-ce que c'est cette abondante collecte? C'était l'église de Jérusalem. Vous vous souvenez, au début, beaucoup de gens avaient vendu leurs champs et leurs maisons, avaient apporté l'argent aux pieds des apôtres, et l'argent était redistribué. Nous sommes maintenant rendus aux environs de l'an 58. Donc ça fait à peu près 25 ans que tout ça s'est passé. La pression sur Jérusalem augmente. Entre les Juifs et les Romains, ça va de plus en plus mal. 12 ans après 2 Corinthiens, 12 ans plus tard, les Romains vont envahir et détruire la ville de Jérusalem. Déjà, l'église de Jérusalem a eu beaucoup de persécutions et beaucoup de chrétiens ont fui Jérusalem pour aller dans d'autres endroits. Mais les gens qui restaient sur Jérusalem étaient maintenant pauvres. Ils étaient persécutés par les pouvoirs juifs en place, les mêmes qui avaient clamé la crucifixion du Christ, persécutaient les chrétiens. Sans doute, comme aujourd'hui dans bien des pays, ils ne pouvaient plus trouver du travail. Ils étaient poussés hors de la société. Et pour des raisons que nous ne connaissons pas, ces chrétiens, apparemment, devaient rester dans la ville de Jérusalem, mais ils étaient devenus extrêmement pauvres. Et donc l'apôtre, en allant en Grèce, en fondant plusieurs églises, en Turquie, en Grèce, il pense toujours à cette église de Jérusalem, il a grandi à Jérusalem, il connaissait bien les chrétiens, connaissait bien les apôtres, et il aimait beaucoup cette église, c'était l'église mère de toutes les églises du Nouveau Testament, et il savait que l'église de Jérusalem était vraiment dans une pauvreté profonde. Et il conçoit l'idée que les églises qu'il avait fondées, grâce à l'Évangile, puissent faire une offrande volontaire pour soutenir les chrétiens à Jérusalem, pour leur permettre de continuer à manger et de vivre. Donc, il en fait part à l'église de Corinthe. Et l'église de Corinthe dit, oui, mais nous, on va participer, on va vraiment donner une belle collecte, on va vraiment, vraiment investir, on veut donner. Puis l'église de Corinthe avait pas mal de moyens. C'était des gens assez aisés. Et puis il est allé en Macédoine, dans le nord du pays, et il en a parlé aussi. Mais ces gens-là étaient assez pauvres. C'était des communautés très pauvres. Mais eux, ils ont dit, mais est-ce qu'on peut participer aussi? On veut aussi participer à cette collecte. On veut aussi donner pour l'église de Jérusalem. Alors, bien sûr, Paul dit, oui, ben je suppose. Et alors, ils ont commencé, ils se sont, comme on dit, ils se sont saignés à blanc, financièrement. Ils ont donné ce qu'ils avaient en trop, et puis ce qui est nécessaire, et puis, ils ont vraiment fait une collecte incroyable, vu leur pauvreté. Une année était écoulée, depuis que Corinthe avait dit qu'il voulait participer à la collecte, et l'église de Corinthe n'en avait rien fait. Les gens n'avaient pas mis d'argent de côté. Et Paul disait, ben, je vais passer chez vous, prendre votre collecte, en montant vers la Macédoine pour prendre la leur. Mais quand il sait que l'église de Corinthe n'a rien mis de côté, qu'elle n'est pas prête pour la collecte, il dit, bon, je vais changer de plan, je ne vais pas passer chez vous d'abord, je vais passer chez les autres d'abord, parce que l'argent est déjà réuni, et après je descendrai chez vous, et ça vous donnera le temps de constituer cette offrande. Et donc, c'est pour ça qu'il écrit 2 Corinthiens. Parce qu'il y a des gens dans Corinthe qui ont dit oui, ben, il change d'avis, il va passer chez nous d'abord, après il va passer là-haut d'abord, il change tout le temps, il ne sait pas ce qu'il veut, qu'est-ce que c'est comme homme de Dieu? Et Paul dit, attendez, pourquoi j'ai changé de plan? C'est parce que vous n'êtes pas prêts. Et puis, faire une collecte quand même, et on peut penser qu'ils avaient une somme assez grande, et prendre cette collecte et l'amener jusqu'à Jérusalem, Paul ne va pas le faire seul, il ne va pas prendre de l'argent, lui, et l'amener seul à Jérusalem. Donc, il a constitué une petite équipe d'hommes, mais dans cette équipe, il n'y a que des hommes qui ont une haute recommandation de leurs églises respectives, comme étant des hommes d'une intégrité absolue. Il dit, on fait une petite équipe, c'est l'équipe qui va prendre l'argent, et on va voyager ensemble, et on va aller ensemble, c'est des représentants de vos églises qui vont remettre ce don à l'église de Jérusalem. Et c'est là qu'il dit ces deux versets, on agit comme ça pour que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte dont nous avons la charge. Il y a un domaine qui vraiment touche les gens, mais viscéralement, qui est un domaine explosif dans l'œuvre de Dieu, et c'est le sujet de l'argent. C'est incroyable, on n'est pas indifférent, mes amis, face à l'argent. Dès qu'on commence à parler d'argent dans une église, vous avez toujours quelqu'un, il ne faut pas parler d'argent. Si jamais on a des inconvertis qui viennent, ils vont croire qu'on est une secte, qu'on veut leur argent, et puis on veut les manipuler, c'est pas la scientologie, il ne faut pas en parler. D'autres disent, mais il ne faut pas passer dans les rangs avec un panier, ça fait quête, ça fait, on a besoin de vos sous, les gens se sentent qu'ils doivent donner, on les met sous pression, on est là pour honorer le Seigneur, on n'est pas là pour prendre les sous. Où est le problème? Le problème, c'est dans notre attitude, souvent, vis-à-vis de l'argent. L'apôtre Paul va écrire à Timothée, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Si on disait, on va réunir, on va rassembler les marteaux d'occasion, ça ne ferait pas un foin comme ça. Chacun amène tous les marteaux d'occasion qu'il a chez lui, on ferait dans une grande caisse, on mettrait nos marteaux d'occasion, et on dirait, c'est intéressant, on a fait une collecte de marteaux d'occasion, j'en ai amené trois, mais il faut que j'en achète trois autres. Ben non, je les ai donnés à la collecte. Ça ne ferait pas de pli. Si on ramassait des boutons d'occasion, ça ne ferait pas. Si on ramassait des vêtements, aucun problème. Mais vous parlez de ramasser l'argent. Et... ce qui fait que beaucoup de pasteurs et beaucoup de responsables avouent, notre église ne donne pas beaucoup, mais on n'ose pas parler d'argent, parce que ça donne de l'eczéma aux gens, ça les trouble. Ils disent, vous parlez encore d'argent, moi je quitte l'église, hein, c'est pas possible, on est libre en Christ, on fait ce qu'on veut, c'est la grâce, c'est pas l'argent, et qu'est-ce que vous voulez prendre cet argent, qu'est-ce que vous allez en faire, etc. Alors, ça demande déjà à réfléchir, une église doit réfléchir par rapport à l'argent. D'abord, est-ce qu'il y a un trésorier officiellement désigné par les membres de l'église? Est-ce que l'argent des offrandes est compté par au moins deux personnes? Est-ce que les sommes sont consignées dans un registre qui est gardé dans l'église? C'est une excellente chose à faire. Est-ce que les comptes sont présentés à l'église à chaque assemblée générale? Est-ce que les membres ont le droit d'aller consulter les livres de l'église s'ils le souhaitent? Est-ce que les membres reçoivent un compte rendu financier en main propre, sur papier, où ils peuvent voir où est passé l'argent? Est-ce que l'église a un budget? Est-ce que les membres connaissent le budget? Ou s'ils choisissent de ne pas le connaître, est-ce qu'ils font confiance à ceux qui connaissent que le budget est bien tenu? Il y a donc, on doit s'entourer de sécurité pour que les membres de l'Église sachent précisément où va leur argent. Et que les membres de l'Église, eh bien, puissent voter sur l'affectation de ces fonds. Et si c'est le cas, il ne doit pas y avoir de problème. Maintenant, si le responsable commence à piquer dans la caisse, les sommes commencent à disparaître, là c'est autre chose. Le problème encore n'est pas l'argent, c'est la gestion de l'argent. Là c'est malhonnêteté, c'est peut-être du vol. si on sent que quelqu'un veut s'enrichir sur le dos de l'Église, c'est mauvais aussi. Et donc, Paul, il traite l'argent ici. Et les Corinthiens, eux, c'est des gens assez aisés, ils en ont pas mal, mais ils ont beaucoup de difficultés à se séparer de leur argent pour l'œuvre de Dieu. Par contre, pour faire des promesses, ils sont forts. Ils ont dit, on va faire une collecte, Paul, tu vas avoir cette collecte. Et Paul, dans les autres églises, a dit, l'église de Corinthe s'est engagée à faire une belle somme pour soutenir les frères et sœurs à Jérusalem. Il a dit, j'avais parlé de votre promesse aux autres églises et elles avaient envie aussi d'y participer. Et voilà qu'un an est passé et vous n'avez pas encore mis la moindre somme de côté. Il dit, moi je ne vous ai rien demandé. C'est vous qui avez voulu. C'est vous qui avez dit que vous allez le faire et vous n'en avez rien fait. Alors, maintenant, pour que vous puissiez accomplir votre propre promesse, il leur dit, comme vous avez promis une somme généreuse, ce que je vous recommande de faire, c'est le premier jour de la semaine, vous mettez de côté, chez vous, quelque part, une somme, ce que vous pouvez faire, ce que vous voulez faire. Vous mettez ça chez vous quelque part, comme dans une tirelire. Tous les dimanches, vous mettez ça de côté. Et chaque dimanche, vous en mettez un peu, ce que vous pouvez, ce que vous voulez. Je ne vous impose rien. C'est une offrande volontaire. Et quand on viendra avec notre équipe et on fera ce grand culte, chacun de vous amènera la somme qu'il a thésaurisée à l'église et vous le verserez à la collecte et ça fera une belle collecte. Mais si vous ne mettez rien de côté, vous n'aurez que l'argent qui vous restait de cette semaine-là ou de ce mois-là et votre collecte ne sera pas du tout le montant que vous avez voulu mettre. Et ce sera dommage, vous serez dans la confusion, je serai dans la confusion, les frères seront un peu choqués et ça ne va pas aller pour votre bien. D'accord? Et c'est dans ce contexte-là qu'il écrit ces deux chapitres. Il faut dire que c'est très délicat comme sujet. Mais l'argent, l'œuvre de Dieu, comme toute autre entreprise humaine, a besoin d'argent pour vivre. On va dans un local et beaucoup de gens disent, bon, parce que le local est tombé du ciel, il est là et personne ne paie de loyer. Mais les membres savent qu'ils paient un loyer. Et ça réclame des dons réguliers, un engagement régulier, qui est l'œuvre de Dieu. C'est pour l'œuvre de Dieu. On donne l'argent au Seigneur, et c'est son Église qui en assume la gestion, et les membres gèrent eux-mêmes, en Assemblée Générale, les sommes que les membres eux-mêmes ont données et doivent gérer l'œuvre de Dieu. Et Dieu demandera des comptes un jour à cette communauté, par rapport à sa libéralité, par rapport à sa gestion, par rapport à son budget. On va rendre des comptes à Dieu. Bon, et si on le voit comme ça, c'est limpide, il ne doit pas y avoir de problème. Maintenant, ça c'était la question de l'argent, et c'est dans le contexte de Corinthiens chapitre 8, 20 et 21. Bon, mais ce que l'on veut voir ici, c'est que dans ce domaine si délicat et si explosif, comme dans tous les autres, vous et moi, nous savons ce qu'il y a dans notre cœur. Si je vous posais la question aujourd'hui, combien d'entre vous êtes foncièrement et profondément sincères dans votre désir de marcher avec Dieu? Je pense que chacun dirait, mais oui, je suis sincère. Personne ne lèverait la main pour dire, écoutez, je suis un hypocrite, j'aime être hypocrite, je ne veux pas que les gens pensent que je suis sincère, je suis hypocrite et je tiens à ce que tout le monde le sache. Ça ne se dit pas. Personne ne va jamais avouer qu'il est hypocrite. Tout le monde va toujours dire, il est sincère. Combien ici disent, je suis foncièrement honnête? Chacun dirait, ferait peut-être comme ça, mais je veux l'être au moins, je veux être honnête. Personne dirait, je veux être malhonnête et j'ai l'intention de détrousser le camp avant de partir demain. Si vous le faites, ne le dites pas à l'avance, parce que comme ça vous pouvez avoir plus. Mais donc nous sommes responsables de ce qu'il y a dans notre cœur. Mais nous sommes aussi en partie responsables de ce que les gens voient de ce qu'il y a dans notre cœur. Je viens de penser à quelque chose de terrifiant. Qui doit quitter le camp à 1000 écarts? Ah, c'est demain. Je viens d'être soulagé dans mon cœur. Regardons 1 Samuel 16. Oui, d'accord. Demain, c'est pas aujourd'hui. Ouf. 1 Samuel 16. Vous voyez que je pense, juste pas dans le bon ordre. 1 Samuel 16, 6 et 7. Passage que vous connaissez bien. C'est Samuel qui est allé chez Isaïe pour voir lequel des fils d'Isaïe doit être le prochain roi. Il voit les 3 aînés, Éliab premier. Lorsqu'ils entrèrent les fils d'Isaïe, Samuel se dit, en voyant Éliab, verset 6, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » C'est un bel homme, un grand garçon, l'aîné, tout a dit que ce sera le prochain roi. 1 Samuel 16, 6 et 7. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Incroyable. Il y a une vérité ici. Une grande vérité. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, parce qu'il ne peut voir que ce qui frappe ses yeux. L'Éternel regarde au cœur parce qu'il a la capacité de regarder au cœur. S'il était comme nous, il en serait réduit à sa seule vue aussi. Samuel a été réduit à sa seule vue. Il avait vu Saül, le premier roi, qui faisait une tête plus que tous les autres, bel homme, costaud, il avait l'air, non, il avait une tête de roi, comme on dit. Il était timide comme tout au début, mais il a acquis de la prestance, il faisait vraiment roi. Et donc, il était dans un peu cette optique. Eliab, beau garçon, bel homme, ça va être le prochain roi, c'est clair. L'aîné, tout. Et tu dis non. Toi, tu regardes ce que tu vois. C'est vrai qu'il a une tête de roi, mais il n'a pas le cœur de roi. C'est pas celui que j'ai choisi. Et donc, ne juge pas sur ce que tu vois. Mais parfois, nous chrétiens, on a pris ce verset. Je connais plein de chrétiens qui ont pris ce verset et qui l'ont complètement détourné. Alors vous arrivez au culte, excusez-moi si vous le faites, c'est votre problème, mais permettez-moi, accordez-moi le privilège de... Bon. Vous arrivez au culte, le t-shirt un peu troué, on le voit qu'on la porte depuis jeudi soir sans discontinuer, le jean, les tongs, les orteils, c'est vraiment d'une couleur indéfinie, c'est pas la couleur de votre peau. Vous avez besoin par contre qu'on vous lave les pieds. On arrive comme ça, une demi-heure en retard, on s'installe, on ouvre sa Bible, on le jette sur son genou. Et les gens disent, ben celui-là, franchement, je ne crois pas qu'il sait qu'il est dans la maison du Seigneur. Il a l'air d'être allé à la plage, et il a erré, il est tombé dans le culte. Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est comme chrétien? Mais vraiment, on voit qu'il est négligent. Négligent et négligé. Et alors quelqu'un se hasarde et lui dit, mais comment tu viens au culte? Comment je viens au culte? Je serais bien moi au culte. Et toi et ta chemise blanche, et toi et ta robe et tout ça, et écoutez, moi, vous regardez ce qui frappe les yeux, mais Dieu lui voit mon cœur, et il sait que je suis sincère, et si ça se trouve, je suis 10 fois plus spirituel que vous. Hein? Vous avez regardé le jean, le t-shirt, tout ça. Si je mettais une belle chemise et tout ça, là vous direz que je suis bon chrétien. Hein? Vous avez regardé ce qui frappe les yeux. Mais Dieu, lui, il sait que je suis bon chrétien. Lui, il voit mon cœur. Mais vous, hypocrite. Moi. Alors, il vous en sert, mais il connaît bien le verset. Et on a l'impression d'avoir un coup sur la nuque, là. Et, ouf. Et on se dit presque pour être spirituel, pour que je mette un jean troué et puis une chemise sale, pour être comme lui. Parce que comme ça, tout le monde va voir que je ne regarde pas ce qui frappe les yeux, je ne regarde que le cœur. Bon, plusieurs erreurs. Premièrement, il dit, vous ne regardez que ce qui frappe les yeux, comme si c'était un défaut d'avoir des yeux. Et puis il vous reproche de ne pas regarder son cœur, alors qu'on n'est pas capable de regarder son cœur. Mais donc, il a un problème. Cette personne-là, peut-être un problème de budget pour de meilleurs vêtements. Mais généralement, les gens qui s'habillent comme ça, ils ont des costards dans leur garde-robe, mais ne veulent surtout pas le mettre, ni une chemise blanche, ni rien, de peur de passer pour un chrétien en dimanche. Et au titre de « Je suis libre en Christ, je fais comme je veux hein, », alors je vais mettre le truc le plus nul que je peux pour montrer que je suis libre en Christ. C'est comme si on faisait une affirmation, voyez. Alors, ne parlons pas s'il a tort ou raison. La question n'est pas est-ce qu'il a tort ou raison. Et est-ce qu'on peut le critiquer? La question n'est même pas là. Mais la question, c'est qu'il n'a pas compris le verset et le principe. Il y a un autre passage, je crois que c'est Proverbe 16. Et là, j'ai fait une erreur peut-être dans le texte ici de la leçon. Je regarde, j'espère que c'est bien le verset. Non, c'est pas ça. Oh là là. Proverbe 3. Proverbe 3, oui. Proverbe 3, 3 et 4. C'est celui que je veux voir. Oui. Proverbe 3, 3 et 4. Dis sous une autre forme que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Intéressant. Bonté et fidélité. Nous devons avoir de la bonté, de la fidélité dans nos cœurs. Mais il dit, lis-les à ton cou. Mesdames, qu'est-ce que vous liez à votre cou?
Des colliers.
Des colliers. Est-ce qu'on met un collier pour le cacher essentiellement ou pour le montrer?
Non, pour le montrer.
Normalement, mais pour le montrer. Et on fait un collier, soit c'est un joli collier décoratif, parfois une croix huguenote pour montrer, essayer de donner un petit témoignage, je suis chrétien, enfin bon. Il y a plusieurs raisons. Là, tu as un collier qui est en coupe-ongle, Anne. Bon, ça donne un message aussi. J'ai besoin de manucure, c'est clair, ok. Mais on met autour de son cou ce qu'on veut que les autres remarquent. C'est pour ça qu'il regarde ce qui frappe les yeux. Alors, le Seigneur dit, dans ton cœur, doit y avoir de la bonté et de la fidélité. Mais il dit, il n'y a pas que dans ton cœur que ça doit être, ça doit être affiché autour de ton cou. C'est-à-dire, nous sommes responsables non seulement pour ce qu'il y a dans notre cœur, mais pour la perception qu'ont les gens de ce qu'il y a dans notre cœur. Si je viens un matin, peut-être le même matin, et j'arrive dans la salle à manger comme ça, et vous dites, tu es fâché ou quoi? Ben non, pas du tout. Oh, je préfère que ça. Mais pas du tout. Mais tu n'es pas fâché? Mais non, pas du tout. Pourquoi tu dis que j'ai fâché? Mais tu as l'air fâché. Mais tu regardes ce qui fera plaisir. Encore une fois, tu n'as rien compris. Mais dans mon cœur, c'est rempli de bonté, de fidélité et d'amour. Vous allez dire, mais les gens qui sont remplis de bonté, de fidélité et d'amour ne se promènent pas comme ça, avec leurs mains en poing et en soufflant fort, comme si vous voulez taper sur quelqu'un. Ton langage corporel me dit que tu es fâché. Et quand je t'interroge, tu me dis que tu es plein de bonté et de fidélité. Là, on est tous d'accord qu'il y a une contradiction. On va dire, ben, tu es un sacré bon acteur. Parce qu'on jurait que tu étais fâché. Et tu dis que tu ne l'es pas. Eh ben, excusez, mais que voulez-vous? On pense que dans ton cœur, il y a ce que l'on voit dehors. Et donc, Dieu dit, verset 4, « Tu acquériras ainsi, regardez bien, si cette bonté est dans ton cœur et si c'est manifesté comme un collier autour de ton cou, tu acquériras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. » Ça veut dire que les gens vont être favorables envers toi, et que les gens vont bien t'estimer et vont vraiment comprendre ce qu'il y a dans ton cœur, s'ils peuvent le voir dans ta vie, dans ton comportement, sur ton visage, comme autour de ton cou, comme un collier. En Romains 12, 17 et 18 dit « Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe où nous vivons, devons rechercher ce qui est bien devant tous les hommes, même les inconvertis. Surtout les inconvertis. Parce que les inconvertis sont de potentiels enfants de Dieu. Les chrétiens le sont déjà. Les seuls gens qui peuvent se convertir, ce sont les inconvertis, excusez-moi de cette lapalissade. Mais notre travail est auprès des inconvertis, notre témoignage est auprès des inconvertis. Alors on dit, oui, les inconvertis ne comprennent rien à l'évangile, ils n'aiment même pas la Bible, c'est même pas la peine, c'est que je me surveille. De toute façon, ils sont perdus, ils ne veulent pas de Dieu. Moi je sais qu'ils, je le vois d'ailleurs, je vois dans leurs yeux qu'ils ne veulent pas de Dieu. Ah, comment vous voyez dans leurs yeux qu'ils ne veulent pas de Dieu? Mais je le vois, il tire une tête, on voit bien qu'il ne veut pas de Dieu. Et toi, tu ne tires pas une tête parfois. Lundi matin au travail, vous êtes fatigué d'être à l'église toute la journée hier avec le repas en commun et tout ça. Et on ne dirait pas que tu es un chrétien triomphant lundi matin. C'est fatigué. Ben oui, mais... Hein? Ben, je crois que je toque tous des cordes sensibles. On a tous connu ça, n'est-ce pas, lundi matin? Il y a des pasteurs. C'est arrivé tellement souvent qu'on le dit, comment dit-on? Eh hey, frère, t'as jamais eu envie de démissionner de ton église comme pasteur? Ah oui? Et ah bon, c'est déjà arrivé plusieurs fois? Ah oui, oui. Et à quelle fréquence? Toutes les semaines? Ah bon? Et quel jour? Lundi matin? Lundi matin, je crois que je n'ai rien fait hier, c'est pas la peine que je continue. On a tous des moments où on a un ras-le-bol, on est fatigué, on a envie de tout abandonner. Mais recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si les autres nous perçoivent bien, comme il faut, c'est eux qui vont taire les éventuelles critiques contre nous et notre ministère. On a dans le quartier, surtout dans les années passées, des voisins très intéressants. Il n'y en a aucun qui n'est jamais venu pour savoir ce que nous faisions, mais ça ne les empêchait pas de formuler des évaluations sur qui nous étions. Et c'est ainsi que par certains voisins, nous apprenions que nous étions une secte. Une secte vraiment bizarre. Et pourquoi? Mais parce que, d'abord, il y a des voitures qui viennent là, qui se garent. Il y a des gens qui s'en vont, qui reviennent. Des gens de toute la France qui viennent. On voit sur les plaques du 69, du machin. Alors, qu'est-ce que c'est que ces gens avec leurs voitures qui viennent? Comme vous arrivez chez vous? Et puis, il y a les enfants, je ne sais pas ce qu'ils y font là-bas avec ces enfants. Mais si vous le dites d'une certaine manière, ça semble presque criminel, n'est-ce pas? Des voitures qui viennent, qui vont, des enfants et tout, c'est sûrement une secte. Et puis, je crois que c'est un Américain ou quelque chose là-bas, puis sa femme est blonde. Alors, c'est... Dans le pays ici, on ne vole pas toujours très haut, hein. Mais nous, les paysans ici, je m'inclus avec eux, on aime pour causer des autres. Quand je vais chez mon voisin, mais on cause de tout le quartier. Et puis, il a perdu sa belle-mère et je l'ai appris par tel autre. Et puis, il me l'a dit et je l'ai vu à Intermarché. Et puis, c'est l'autre sur le tracteur qui m'a dit en passant. Mais les nouvelles voyages, hein? Pas par téléphone, mais par tracteur interposé. Hein? En tous les cas, on a quelques voisins avec lesquels on est devenu assez proches. Et eux, ils ont entendu ça. Puis ils ont dit, mais non, mais madame Elisabeth, mais elle est très gentille, moi j'avais mal, elle m'a soigné, c'était bien. Et le pasteur Tim, oh mais il est gentil et tout. Mais c'est des gens très gentils, vous savez, des gens travailleurs, hein, ils travaillent. Hein. Et puis ma voisine, elle disait, mais pasteur Tim, vous devez aimer ça, travailler, faire du béton et tout ça, hein. Vous devez aimer ça. Ah, ben j'ai dit, j'aime pas tant que ça, mais il n'y a personne pour... Si, 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 moi je sais que vous aimez ça, parce que sinon vous le feriez faire par quelqu'un. J'ai dit, on n'a pas les moyens. Oh, vous n'avez pas les moyens, l'Amérique et tout ça, il n'y a pas les moyens. Et vous voyagez, vous savez, il faut beaucoup d'argent pour voyager. Nous pauvres, ici à la ferme, on n'est pas riches, mais je dis, vous êtes plus riches que moi. Eh bien non, pauvres, on ne peut pas voyager comme vous. Je dis, mais votre capital est immobilisé sur la ferme et les bêtes. Ah mais pour elles, elles sont pauvres parce qu'elles ne peuvent pas voyager. Je voyage donc je suis riche, si vous savez les conditions. Hein? Mais c'est, on imagine des choses. Et tous on imagine des choses. Si j'achetais une vieille Ferrari pour 1000 euros et que je la conduisais, vous aurez de moi une très mauvaise opinion, n'est-ce pas? Et je serais connu comme le pasteur qui roule en Ferrari. J'ai parlé avec un pasteur anglais qui avait acheté une Ferrari à 3000 euros. Elle a 25 ans d'âge, mais elle était rouge, il l'aimait bien, mais il a dû la revendre. Pas à cause de la Ferrari, à cause des chrétiens. Qu'il aurait eu une Peugeot neuve, aucun problème. À 12 000 euros, aucun problème. Une Ferrari de 25 ans qui a coûté 3 000 balles, là, il aurait. C'est, il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce que les gens ont une perception.
Oui,
mais voilà, tu vois, c'est la preuve. C'est la, je crois qu'elle n'est pas normale. Qui roule en Ferrari,
non.
Que les gens le jugent. Oui, mais les gens jugent. Et nous jugeons, mes amis. Nous jugeons.
Moi, je juge pas.
Non, toi, tu ne juges pas. Tout le monde juge, mais pas là-dessus, sur d'autres trucs. On est bien d'accord. En tous les cas, nous vivons dans un monde où les gens ont une perception. Et vous et moi, nous avons des perceptions. Parfois elles sont vraies, parfois elles sont fausses. Mais on a vraiment, et puis on forme des opinions. Alors on se dit, mais alors je suis étriqué, mais comment je vais vivre? Il faut que je vive dans une boîte, même pas sortir de chez moi. Et si vous ne sortez pas de chez vous, les gens, mon Dieu, elles ne sortent jamais de chez elles, elles sont antisociales. Ah bon, il faut que je sorte de chez moi. Ah ben, on sort tout le temps, elle n'est jamais à la maison, on ne doit pas négliger son intérieur. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais prenons courage. Dieu nous demande de vivre près de lui et de tenir compte un minimum de ce que les gens peuvent penser, ne pas provoquer les soupçons. Comme on disait tout au début, dans une petite église, si on lève une offrande, j'ai vu ça tant de fois. C'est très difficile de faire savoir ce qu'il faut faire. Vous avez le pupitre, vous savez. Puis on fait l'offrande, et puis les gens donnent le panier au passeur, et puis le met derrière le pupitre. Il y a souvent une étagère derrière, et il met ça sur l'étagère derrière le pupitre. Et moi, je me suis toujours dit, qu'est-ce qu'il fait pendant qu'il prêche? Est-ce qu'il trifouille dans la boîte aux offrandes, derrière le pupitre? C'est le sol, et on ne sait pas ce qui se passe. Alors, il a peut-être les mains comme ça pendant tout le sermon pour montrer qu'il n'est pas dans la boîte aux offrandes à prendre des billets de banque et les mettre dans sa poche arrière. Hein. Mais on peut dire, mais s'il y a quelque chose qui peut paraître suspect, essayons d'arranger ça pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc ça demande à réfléchir, et ça demande à on peut s'éloigner de soi-même et de poser un regard sur les autres. Poser un regard sur vous-même comme si vous étiez quelqu'un d'autre. Et essayer de vous dire, si j'étais quelqu'un qui me regardait, comment je me trouverais? Je ne demande pas de faire de la schizophrénie, hein, ou du dédoublement, mais simplement de nous mettre dans la peau d'un autre. Un jour, il y avait un jeune homme qui est venu, qui était à l'école biblique aux États-Unis, puis il avait une coiffure normale, et puis derrière, il avait 60 cheveux, je dirais, et il avait une queue de cheval comme ça, avec un élastique. Alors j'ai regardé ça, puis ça me gênait, et puis moi, mes pieds en plat et tout ça. Pourquoi tu portes, parce que j'ai, au lieu de le juger, pourquoi tu portes cette petite queue de cheval? Ah, il dit, je fais une expérience. Et c'est quelle expérience? Il dit, je veux voir les chrétiens qui portent un jugement contre moi. Parce que ça, c'est des hypocrites. Je dis, je crois que tu fais erreur là. C'est pas de l'hypocrisie, c'est que normalement, des chrétiens qui se targuent d'être vraiment proches de la parole de Dieu, qui aiment le Seigneur, ils cherchent à ne pas attirer l'attention des gens vers eux-mêmes et se faire poser des questions inutiles. Ils cherchent à attirer le regard des gens vers Christ. Et là, tu as fait quelque chose exprès pour focaliser l'attention, pour provoquer une réaction. Et par rapport à la réaction que les gens ont, toi tu portes un jugement sur eux, en les appelant hypocrites. Alors qu'ils sont en droit de se poser des questions, pourquoi cette mini queue à cheval derrière ta nuque, à quoi ça sert? Et s'il avait laissé, personne n'aurait rien pensé. Mais le fait de le faire, et puis, c'était une sorte de provocation. Alors, il pensait que c'est une manière de mesurer la spiritualité des autres. Mais je pense que c'est une mauvaise démarche, voyez. Et pour peu de choses. Donc, la question qui se pose, c'est, est-ce que par ma manière d'être, j'attire l'attention vers moi-même? Ah oui, ça c'est la femme, alors franchement, elle ne se soigne pas, ses vêtements sont tachés de taches de nourriture de 3 ou 4 jours. Est-ce que c'est comme ça qu'on veut être connu? Ah, celle-ci, elle a des cheveux jusque-là, elle ne voit même pas à travers, elle fait comme ça. Celle-ci, elle est vraiment fâchée tout le temps contre tout le monde. Celle-là, alors vraiment, c'est... Si nous provoquons de manière universelle et continuellement une certaine impression qui n'est vraiment pas qui nous sommes, nous ne pouvons pas blâmer les autres d'avoir cette impression puisqu'on la leur communique. Si on veut leur communiquer une impression de sérieux, de gentillesse, nous devons faire un travail sur nous-mêmes en disant « qu'est-ce que je peux arranger ?» Qu'est-ce que je peux changer? Il ne s'agit pas de plaire aux gens pour qu'ils disent « Oh, que tu es magnifique !» Il s'agit de ne pas tirer l'attention sur soi-même, mais l'attention sur le Seigneur, de ne pas être une pierre d'achoppement pour les autres. Si vous allez à Boulogne-sur-Gesse et vous me voyez au fond du bar, avec en long verre, avec une boisson, une belle bière, en train de trinquer, vous voyez plusieurs autres verres qui sont sur le bar à côté de moi, vous allez dire quand même, il nous parle de pureté, et je vois qu'il a avalé 5 ou 6 bières, et qu'il parle avec le barman, et est-ce qu'il fait ça tous les jours, et vous vous poseriez comme quand même des questions. Est-ce que je n'ai pas le droit d'entrer dans un bar? Oui, j'ai le droit d'entrer dans une bar. Est-ce que je n'ai pas le droit de boire une bière? Je pense que je pourrais boire une bière sans que ce ne soit un péché. Mais si pour les uns ou les autres, je communique une impression, une idée qui n'est vraiment pas ce que je veux communiquer, je vais être connu comme le pasteur qui va au bar et qui avale les bières les unes après les autres tous les après-midi. Et je ne vais pas être reconnu comme le pasteur qui parle aux autres de Jésus. Je vais être connu comme le pasteur qui roule en Ferrari, le pasteur qui fait ici, le pasteur... Mais pas comme celui qui parle de Jésus. Et donc, c'est pour cela que finalement, le chrétien est appelé à même se vêtir de manière sobre, sans éclat, sans être moche, sans être bizarre, de manière à ne pas attirer l'attention vers lui-même et sa personne, pour ne pas faire obstacle à l'Évangile. Et de la même manière, les attitudes, c'est pareil. Donc, nous sommes entourés de gens qui n'aiment pas trop l'Évangile parce que ça les remet en question, ça les trouble. Puis un diable qui aveugle leurs yeux. Si en plus nous mettons des obstacles, alors ça ne fait qu'alourdir le problème. Satan cherche à dévorer le peuple de Dieu. C'est un lion rugissant, et s'il est possible, il nous poussera à donner de mauvaises perceptions aux autres. Je pense à ce centre de vacances. Alors, très honnêtement, ce centre de vacances n'est pas là où j'aimerais qu'il soit. Il y a des choses qu'on aimerait faire. Il y a des gens, quand ils viennent, ils disent « Mais pourquoi n'avez-vous pas de piscine ?» Mais pourquoi vous ne réglez pas ce problème? Mais vous devriez avoir cela. Mais pourquoi vous ne faites pas ceci? Mais moi, je trouve que... Alors, j'ai deux possibilités. Écoutez, hein, je ne vous ai pas demandé de venir ici. Et vous pouvez partir, hein, si vous voulez. Vous n'avez pas... Vous vous barrez. Est-ce que c'est compris? Je peux le dire, ça. Mais je ne vais pas accueillir leur faveur. Je pourrais leur dire, c'est une excellente idée, nous sommes en train de réfléchir, on n'a pas les moyens, ou ce n'est pas une priorité actuellement, mais on l'étudie, ou non, on a pensé ne pas le faire, mais si quelqu'un fait une suggestion et on le prend comme une agression, est-ce qu'elle va continuer à faire des suggestions? Elle va dire, bon ben, il n'y a que lui qui a raison, ça va, que Dieu le bénisse, s'il le peut, moi je viens plus ici. Voilà, il faut rien dire, hein? Vous avez le droit d'ouvrir à la cloche, de manger votre repas, de venir à l'étude et vous la boucler. Parce que dès que vous pipez en son, il vous tombe dessus. Est-ce que nous sommes comme ça dans nos relations? On peut l'être. Comment tu vas? Oh, j'ai crevé. Je sers le Seigneur tellement. 3 heures de sommeil par nuit, je ne pense que je ne vais pas pouvoir en tenir, mais est-ce que les gens le comprennent ce que je vis? Non. Ils viennent, ils mangent, ils boivent, et ils s'amusent, ils jouent au ping-pong, et c'est moi qui me tape tout le boulot, j'en ai marre, mais bon, je le fais pour le Seigneur. Qu'est-ce que vous allez comprendre? Il se plaint, il est quelque part fâché avec Dieu, il est content qu'on soit là, mais il préférait qu'on ne soit pas là. Il ne parle que de lui-même. Il vous met une culpabilité que si vous voulez vraiment être chrétien, vous ne viendrez pas en vacances, vous viendrez travailler ici. Oh! Quelle horrible attitude! Est-ce qu'on veut servir un Dieu comme ça? Savez-vous que beaucoup d'enfants de pasteurs et beaucoup d'enfants de responsables d'église ne veulent rien savoir du service de Dieu. Et vous savez pourquoi? La principale raison? Ils disent, mes parents ont tellement souffert dans le ministère, et je les aime, et je ne veux pas souffrir comme ils ont souffert. Alors moi, je ne veux rien savoir du ministère. Ça, ce n'est que la moitié de la réponse. Parce que vous avez d'autres enfants qui aiment le service de Dieu et veulent suivre les traces de leurs parents. Et vous dites, mais pourquoi vous voulez servir le Seigneur? Et ils disent, mais parce que mes parents étaient tellement heureux et tellement zélés, et puis ils étaient dans la joie, et puis on rigolait avec eux, puis ils travaillaient dur, c'est vrai, mais c'était, on voyait qu'ils étaient dans la joie, et pour eux, c'était, ils aimaient servir Dieu, et puis nous on a vu ça, et puis on a compris que la meilleure chose qu'on pourrait faire, c'est servir le Seigneur, si Dieu nous appelait, on est heureux de le faire. Alors, où est la différence? Les uns ont souffert et les autres n'ont pas souffert? On va faire la ronde de nouveau. Et tes parents, ils ont souffert? Oh, oui, ils ont souffert, mais alors qu'est-ce qu'ils ont souffert? Et vos parents à vous, ils ont souffert? Oui, ils ont souffert. Et la différence, c'est quoi? Comment, pourquoi toi tu es enthousiasmé et le collègue là-bas, il ne veut rien savoir? C'est l'attitude des parents dans la souffrance qui fait toute la différence. Les souffrances peuvent être les mêmes. Mais les uns, c'est encore le diable nous a attaqué. Là, je crois que vraiment, il nous a eu. On a une balle dans la tête là. On a eu une flèche. Aïe, là, on s'est tombé. Les fléchettes de partout. C'est horrible. Seigneur, aide-nous, le diable. Il y a des gens, des serviteurs qui parlent constamment des attaques du diable. Et d'autres qui disent, eh bien, le Seigneur nous éprouve, mais nous sommes encouragés, la parole de Dieu nous encourage, et le Seigneur nous montre que nous sommes toujours à son service, et c'est une joie de le servir. Et c'est vrai que Satan est un lion rugissant, mais on peut lui résister avec une foi ferme, et puis on peut s'humilier sous la puissante main de Dieu, et puis il nous élève, et puis soyez toujours joyeux, la joie de l'Éternel sera votre force, les souffrances sont les mêmes, mais la réaction est complètement différente. Et qu'est-ce qui a touché le cœur des enfants? Ce ne sont pas les souffrances, c'est la réaction de leurs parents dans ces souffrances qui a été le facteur déterminant sur leur propre motivation pour servir. Soigner notre réputation, frères et sœurs, notre plus grand atout Quelquefois on dit, mais je ne sais pas bien témoigner, je ne connais pas tous les versets par cœur, j'ai peur de frapper aux portes, si les gens me disent non, mais je ne crois pas en Dieu, ben je suis tout nerveux, je ne peux pas témoigner, je suis trop timide. Notre plus grand témoignage, notre plus grand atout, ce n'est pas bien citer des versets bibliques par cœur, ça aide, mais ce n'est pas notre plus grand atout. Notre plus grand atout devant notre entourage, c'est notre réaction dans la souffrance. Si nous restons dans la reconnaissance, si nous restons dans la joie du Seigneur, si nous disons cette épreuve est permise par le Seigneur et elle va contribuer à mon bien et à sa gloire, les gens vont dire, mais comment tu peux être comme ça, aussi positif, alors que tu souffres? Moi, si c'était moi qui souffrais comme ça, mais je lèverais le poing contre Dieu, crois-moi, je serais déjà dans un asile, je serais en cure de sommeil, je serais en pleine dépression, j'aurais envie de me flinguer. Et toi, tu dis, mais le Seigneur a permis ça pour mon bien et pour sa gloire, mais comment tu peux parler comme ça? Je ne sais pas ce que tu as, mais ce que tu as est vraiment à vivre. J'aimerais bien voir ce que tu as. Et là, vous avez témoigné. Là, vous avez porté un témoignage qu'ils ne peuvent pas contredire. Et notre plus grand atout, c'est ça. Et donc, soigner notre réputation, c'est tout ça. C'est notre manière d'être, notre attitude, nos paroles, notre témoignage de manière générale. La bonté et la fidélité qu'on a bien sûr inscrit dans notre cœur, où Dieu le lit bien, mais qui est aussi autour de notre cou, et que les hommes et les femmes peuvent voir. Et avoir de nous une bonne perception, pour que rien en nous ne les repousse du Seigneur, vers lequel on les invite. Si par nos parents disent, mais viens au Seigneur, mais viens, reçois le Seigneur. Et par notre vie, nous sommes en train de dire, ne devenez pas chrétien, parce que si tu deviens chrétien, tu vas voir, le diable va t'attaquer, tu vas souffrir, tu vas te plaindre, comme moi je me plains tout le temps. Ils vont dire, oui c'est bien ton offre, mais à voir comment toi tu vis, je n'ai pas envie d'avoir ces souffrances, et surtout pas cette attitude. Et on va tuer notre propre témoignage par notre manière d'être. Et donc, c'est quelque chose que Dieu nous apprend pour un ministère efficace. Prions. Notre Dieu et Père, merci pour ces instants et veuille continuer à nous diriger pendant cet après-midi dans ta bonne et parfaite volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen.